Vous êtes sur RTL.
On la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Merci Christelle. Les joueurs de l'équipe de France poseront donc ce soir un genou à terre avant le début du match contre l'Allemagne. Le capitaine Hugo Lloris l'a annoncé hier en conférence de presse. Geste politique imaginé par le mouvement Black Lives Matter, dont la traduction littérale est « la vie des Noirs compte ». C'est ça que ça veut dire, Black Lives Matter. C'est un geste politique également, popularisé au moment de la mort de George Floyd à Minneapolis il y a un an, et qui se veut combattre la violence dite policière, notamment celle des policiers blancs, contre la population noire. Bernard est donc avec nous en direct de Jossier dans les Alpes de Haute-Provence. Votre première réaction, Bernard ?
Oui, c'est ça. Alors, ma première réaction, d'abord, je trouve que c'est un peu inapproprié d'utiliser, d'une façon générale, d'utiliser des manifestations sportives pour, si vous voulez, défendre telle ou telle cause, aussi noble soit-elle. On va pas revenir, cette cause, elle est noble. Bon, voilà. Mais on pourrait dire aussi all lives matter. Bon, vous voyez, c'est... Et ça, c'est d'ailleurs une première chose. Et puis, deuxièmement, pourquoi choisir cette cause alors qu'il y a énormément d'autres causes dans le monde tout aussi importantes? Et même en France, si vous voulez, en France, on a des... Je fais un exemple. On a des gens qui travaillent, les ouvriers, par exemple, qui sont au SMIC ou en dessous, qui ne peuvent même pas, à la limite, se loger décemment et tout ça. Et enfin, si vous voulez, on va prendre les footballeurs dont le salaire est environ 1 million d'euros par mois pour certains 500 000 euros. Bon, voilà une chose aussi qui est une discrimination par l'argent. Pourquoi ne mettent-ils pas un genou pour ça? Ben, parce que ça les arrange pas. Alors, je sais pas pourquoi. Alors, déjà, mon propos, c'est un, pourquoi utiliser des manifestations sportives pour défendre des causes?
Ça existait dans l'histoire régulièrement. On se souvient en 68 à Mexico, notamment de joueurs noirs, d'athlètes noirs recevant la médaille de bronze ou d'or, je me souviens plus, et levant le poing dans le ciel. Ça parfois est souvent existé. Ça peut exister.
Ah oui, mais je dis pas le contraire.
Pourquoi pas?
Je me souviens très bien. Non, mais moi, je trouve pas ça normal que l'on utilise une manifestation sportive pour se manifester sur une cause. Et deuxièmement, pourquoi cette cause?
C'est une noble cause, le racisme. Mais voyez-vous, moi, ce qui m'ennuie, c'est pas de défendre le racisme. Ce qui m'ennuie, c'est de s'agenouiller. C'est ça que je ne comprends pas. Parce que qu'on défende le racisme et les discriminations, je trouve ça très bien. Ce que je ne perçois pas, c'est pourquoi s'agenouiller? On s'agenouille devant qui? Et au nom de quoi? C'est ça que je ne saisis pas.
Oui. Et je vous rejoins, Pascal. Parce
ce geste-là, il est symbolique.
Il ne faut pas qu'on croie. Moi, je trouve que le racisme, c'est une noble cause. Il faut que ça s'arrête, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres causes. Et à ce moment-là, on n'en finit plus, si vous voulez.
Oui, mais j'entends.
La faim dans le monde. Pourquoi on ne parle pas de la faim dans le monde? Pourquoi on ne parle pas, par exemple, du tannage du cuir en Inde, où des gens ils sont exploités? Donc voilà, je veux dire, cette cause, c'est une cause.
Si les joueurs, aujourd'hui... si les joueurs portaient l'étendard du tannage du cuir en Inde, ça surprendrait, Bernard.
Mais Pascal, c'est une cause tout aussi noble.
Oui, je suis d'accord, mais quand ça genoux, moi, ce que je n'aime pas, c'est le signe de pardon. Oui. C'est toute la symbolique. C'est pas la cause, moi, qui m'ennuie. C'est la symbolique que révèle ce geste et qui m'ennuie.
J'ai compris. Oui. Et là, oui, c'est vrai qu'ils auraient pu, je sais pas, mettre debout et mettre la main sur le cœur, par exemple. Vous voyez, ça aurait été quelque chose, parce que là, se mettre à genoux, ça a une symbolique que je me soumets, quoi, en fait, quelque part.
Il y a un peu de ça, sans doute.
Voilà, et ça, je suis d'accord avec vous. Mais par exemple, on aurait pu mettre la main sur le cœur, par exemple, c'est quelque chose de moins... Enfin, je sais pas, ça veut tout dire, mais c'est un moins spectaculaire. Par contre, je reviens sur mon premier propos. Mon premier propos, c'est que arrêtons d'utiliser ces manifestations sportives pour défendre des causes, aussi nobles soient-elles, voilà.
Surtout
que c'est presque indécent, parce qu'il y en a le racisme. D'abord, en plus, ça s'est passé quand même aux États-Unis. On n'a pas des choses comme ça en France, quand même. Bon, il y a du racisme en France, c'est sûr, mais on n'a pas des choses comme ça. Donc moi, c'est ça qui me choque énormément. Pourquoi cette cause? Et puis je vous rejoins. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais je vous rejoins. C'est vrai que le genou, c'est un peu inapproprié.
Thierry Herzog est en train d'arriver, mais c'est pour ça que vous l'avez exprimé. Thierry Herzog est en train d'arriver au palais de justice de Paris. Il va être entendu au procès Big Malion à 13h30. Il est en train d'entrer dans l'ascenseur avec une nuée de photographes autour de lui. Et on le voit monter dans les étages. Je pense que Nicolas Sarkozy n'est toujours pas arrivé au palais de justice. Il devrait arriver dans quelques minutes. Et nous pourrons relater son arrivée dans les locaux de ce palais de justice. On va marquer une première pause et nous revenons dans une seconde.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Je salue tous ceux qui nous écoutent et nous regardent en vidéo. Ils peuvent découvrir ces deux ballons qui sont dans le studio. Un ballon aux couleurs de la France, bleu, blanc, rouge, et un ballon aux couleurs de l'Allemagne, Deutschland, que nous avons ici. Je ne sais pas si ces ballons sont à gagner, Laurent Tessier.
Ben, j'espère. J'aimerais bien repartir avec un ballon à la maison.
Bonjour à tous.
Ils ne sont pas du tout à gagner.
J'interviens à ce moment-là pour dire que pas du tout. C'est de la décoration. Ils sont magnifiques.
Greg Caradoni, vous ne voulez pas que la décoration, l'argent qui a été investi dans la décoration finisse chez nos auditeurs.
C'est ce que vous voulez dire. En tout cas, le temps de l'Euro, en espérant que la France aille le plus loin possible. On espère donc garder le ballon le plus longtemps possible en studio.
Bien sûr, bien sûr. Bonjour Laurent.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est le sujet le plus commenté sur la page Facebook de l'émission. Soutenez-vous l'intention des Bleus de mettre un genou à terre ce soir avant le match de l'Euro contre l'Allemagne, un signe de protestation contre les discriminations. Bernard a été le premier à réagir au 32-10.
C'est un peu inapproprié d'utiliser des manifestations sportives pour, si vous voulez, défendre telle ou telle cause, aussi noble soit-elle.
Les Bleus avaient déjà fait ce geste contre le Pays de Galles en match de préparation. Pour Thierry, sur nos réseaux sociaux, que les joueurs commencent déjà par chanter la Marseillaise, qu'ils arrêtent d'être les marionnettes de pseudo-associations et mouvements politisés. C'est de la récupération politique, des non-signes grilles pour se donner une bonne image. Faut pas tout mélanger, demande Christine. Leur métier, c'est de taper dans un ballon. On ne les entend pas beaucoup prendre la défense des policiers et pompiers. Pour Mireille, ce n'est ni le lieu ni le moment. Et Claudie s'interroge, poseront-ils aussi un genou à terre lors du mondial au Qatar avec ses ouvriers décédés dans les chantiers.
Entre le faux hymne consacré à l'équipe de France qui avait fait polémique, cette mini polémique qui se met en place, on aimerait parler football, on est même un peu triste pour tout vous dire de ne pas parler que football et parler uniquement de tactique ou de résultats. Et effectivement, vous réagissez fortement, on a coutume de dire que cette émission est la vôtre. J'observe aussi que sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, alors faut se méfier parfois de Twitter et prendre évidemment tout cela avec des pincettes, mais c'est la première occurrence. La première occurrence, c'est boycott équipe de France. C'est en top tweet. Donc ça fait manifestement réagir beaucoup d'auditeurs. Bonjour Franck.
Bonjour Pascal.
Et merci
bonjour
d'être Laurent, avec nous. Greg. Peut-être que vous trouvez cette initiative heureuse et intéressante. Vous avez envie de la défendre?
Bah oui, j'ai envie de la défendre parce que bon, après, c'est les joueurs. Ils ont décidé entre eux. Ça veut dire que ils se sont réunis entre le capitaine et entre tous les joueurs. Ils se sont réunis pour faire ça. On le fait bien en championnat de France, on le fait bien en Italie, on le fait bien en Espagne, on le fait bien là. Pourquoi la France n'aurait pas le droit de le faire? Alors, va falloir m'expliquer. Et en plus, le racisme, on en a un peu marre. Moi, je trouve que, bon, je vais dans les stades. Là, on entend des bruits de, voilà, je vais pas citer les mots, ça ne sert à rien. On entend des bruits de moineaux. Comme dire l'autre, ces gens-là qui vont dans un stade, ils vont dans un stade pour regarder du foot. Ils sont pas là pour critiquer les jeux, ils sont pas là pour critiquer les joueurs. Même qu'ils se soient noirs, blancs ou n'importe quelle couleur, on est là pour regarder et soutenir notre équipe. Moi, je soutiens ce que Loris a dit par rapport à ça. Et j'ai écouté tout à l'heure Bernard parler de qu'il trouvait pas ça normal parce que c'était pas trop le moment. Et aussi, Pascal, j'ai entendu aussi que tu disais par rapport au genou à terre. Mais la personne qui est décédée aux États-Unis, elle était comment? Elle n'était pas à terre?
Oui,
ils l'ont tué.
J'entends bien, mais il ne me semble pas que, précisément, que les joueurs de l'équipe de France doivent mettre un genou à terre pour saluer la mémoire de cet homme qui est mort à 20 000 km de Paris. Oui. Je revendique cette idée-là pour l'équipe de France, si vous me permettez. Que l'équipe de France combatte le racisme, c'est un combat noble. Qu'elle défende un homme noir victime de violences policières aux États-Unis, il ne me semble pas que ce soit opportun.
Et Pascal aussi, en Italie, il n'y a pas eu énormément de racisme là-bas. Les Italiens, c'est ce qu'ils ont mis un genou à terre par rapport à ça. Pour avant de démarrer leur match, est-ce qu'ils ont mis un genou à terre? Ça ne passe pas.
Bah, c'est-à-dire que toutes les sélections, vous savez, c'est un débat qui existe sur toutes les sélections de l'Euro.
Oui, voilà.
Il y a des sélections qui effectivement observent aujourd'hui ce rite et d'autres qui ne le feront pas.
Oui, voilà. Bah oui, bah après, chacun libre, c'est sûr, chacun libre de faire, des pays sont libres de faire ce qu'ils ont envie de faire, ça c'est sûr, là-dessus, je n'ai pas critiqué les
pays. Ce sont les sélections, la ministre des Sports a trouvé que c'était intéressant. Je vais vous répéter, c'est la symbolique du genou à terre, de l'excuse, de la soumission, du pardon, vous appelez ça comme vous voulez, cette symbolique-là, bah, elle fait, elle interpelle.
Elle fait débat, oui, ça c'est sûr.
Elle interpelle, ouais, c'est pas tant le combat, c'est la manière dont on combat le combat, si j'ose dire.
Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, Pascal. Mais le principe, voilà, après, on verra ce que. Mais bon, à mon avis, Lloris a dû en parler aux sélectionneurs pour qu'ils fassent ça. Pour qu'ils fassent ça, je pense que ça n'a pas dû se faire comme ça.
Je pense que c'est un sujet qui est très.
Très dur.
Oui, mais c'est un sujet qui est très concernant pour les joueurs de l'équipe de France et pour notamment cette jeune génération. Et beaucoup de sportifs se sentent concernés par cela, puisque dans d'autres sports, c'est un sujet qui existe également. J'entends des petits oiseaux derrière vous, Franck.
Oui, je suis dehors.
Vous avez raison qu'il fait beau. Et puis on aimerait être plus léger pour tout vous dire, parce que c'est du foot et on est encore sur des sujets sociétaux peu lourds, disons-le, un peu lourds.
Mais, ouais, bon. Mais bon.
Un pronostic quand même pour ce soir
Je vois un 2-0 pour la France. Un but de Benzema et un but de Mbappé.
Bon, et vous allez regarder comment?
Je vais regarder à la maison devant mon écran, mon grand écran, et je suis supporter de l'équipe de France, supporter du foot et supporter de voilà.
Bon, vous écoutez RTL en même temps que vous regardez la télévision, oui, ça c'est l'usage.
Et vous serez tout seul. C'est une base.
Vous serez tout seul.
J'aurai ma femme avec moi et peut-être mon voisin à côté aussi.
Le voisin va venir. Mais le voisin, il est comment le voisin? Il connaît le foot?
Oui, il n'y a pas de souci. Bon, il a 70 ans, on arrive toujours à l'équiper, ça va.
Bon, et alors, votre femme, elle connaît le foot aussi?
Oui, elle commence à s'y remettre, là. Elle commence à s'y mettre un peu, là. Elle n'a pas le choix. Hein.
Elle n'a pas le choix. Bon, et vous êtes plutôt calme devant l'écran ou plutôt agité?
Voilà.
Ah, vous êtes agité?
Très agité, moi. Je suis très, très agité. Et surtout, vous savez que je supporte un club. Et c'est encore pire quand je supporte mon club. Voilà, je peux pas rester, dans mon canapé, il faut que je bouge. Hein.
Bon, vous avez 50 ans, vous vous souvenez du France-Allemagne de 82? Non, vous étiez trop petit.
Non, France-Allemagne 82, j'avais 12 ans.
Ah, vous en souvenez bien?
Oui, le but de Giresse. Que je me souviendrai toute ma vie, c'est le fameux Batiston qui s'est fait, mais malheureusement dégommé par Schumacher. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Ça,
c'était il y a 40 ans quasiment, vous vous rendez compte. Ouais, c'était il y a 39 ans exactement, c'est incroyable. Merci Franck, il est 13h17, on va marquer une pause. Est-ce que nous avons... qu'est-ce qu'on pourrait entendre par exemple? Tout à l'heure, on avait Marius Trésor. Vous avez entendu Marius Trésor qui était avec Christelle Robière? Eh bien, figurez-vous que Marius Trésor, il a chanté et il a fait une sorte de chanson culte qui s'appelle, d'abord on pourra la réécouter, Marius Trésor.
Sacré Marius, n'est-ce pas?
Voilà, on pourra la réécouter au micro de Christelle Robière, mais on peut peut-être écouter ce Sacré Marius qui correspond tellement bien à l'atmosphère du jour.
On pourra le faire après la pause?
À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Marius Trésor, qui était un joueur exceptionnel aujourd'hui, serait au Real Madrid ou à Barcelone. Fin, élancé, grande qualité technique, intelligence, relance. Merveilleux joueur, Marius Trésor, qui était arrière central, qui avait commencé à Ajaccio, qui a joué ensuite à l'Olympique de Marseille et qui a été à Bordeaux à la fin. Donc on le salue, Marius, et puis il est tellement gentil, c'était tellement agréable tout à l'heure de l'avoir au micro de Christelle Robière. On va être avec Alexis Menuge en direct d'Allemagne dans une seconde. Bonjour Alexis, vous êtes le correspondant pour RTL et on vous entend régulièrement dans les émissions de foot. Vous allez nous dire comment l'Allemagne prépare la rencontre de ce soir. Mais un mot de Laurent avant cela, qui est bouché à Lille. Bonjour Laurent, et qui veut s'exprimer toujours sur ce genou à terre qui semble passionner nos auditeurs. Que dites-vous Laurent?
Bonjour Pascal. Ce que je dis, c'est qu'il y en a marre de ces faiseurs de leçons, de ces gens, de ces footballeurs qui gagnent des millions et qui sont là pour donner une morale aux gens. Mais c'est leur monde, ils sont dans leur monde, un animateur de télévision, un comédien, il y en a marre de ces gens-là. Moi, je suis à bout et je pense que la France est à bout de ça. Ce soir, je supporterai la Mannschaft. Je vais vous dire, il y a
qu'en France. Non, faut pas dire ça, Laurent.
Mais attendez, cher Pascal, vous plaisantez ou quoi? Je travaille, je suis bouché, je fais 50 heures par semaine. Moi, j'ai
même pas l'occasion
mais c'est noble de défendre de combattre le racisme.
Mais je ne suis pas raciste, Pascal, je ne suis pas du tout raciste, mais il y en a marre de ces teneurs de leçons. C'est tout. Est-ce que vous êtes fou? Est-ce que vous êtes pour Assa Traoré? Tout ce qui se passe, eh ben moi je dis non. Et je parle pour des millions de Français. Il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a absolument marre que ces gens-là donnent des leçons. Laissons la libre pensée aux citoyens français. Laissons-les penser ce qu'ils veulent. D'accord? Je ne suis pas raciste, Pascal. Et je peux bien le prouver. Parce que
j'ai jamais entendu quelqu'un dire que je suis raciste. Donc, jamais j'ai entendu dire ça.
Si, moi je suis raciste contre les cons. Contre les cons, je suis raciste. Je suis raciste contre les cons. Ma femme tient un bar PMU, tout ça et tout. J'ai beaucoup d'amis algériens, marocains et tout. Même eux, monsieur Pro, même eux, ils sont dégoûtés par ce geste. Même eux, ils disent c'est la décadence. C'est la décadence. Mais prenez le problème de A à Z. De quel droit? C'est comme vous, monsieur Pro. Vous passez sur CNews, vous passez là-bas, vous avez un poids de parole, un poids. Vous avez un public, vous avez un poids de parole. On le voit sur les réseaux sociaux. Et je vous admire énormément dans votre métier de journaliste, parce que je trouve que vous êtes quelqu'un d'hors pair. Mais par contre, monsieur Pro, soyez d'accord avec moi, au moins 30 secondes. Dites-moi que j'ai raison, il y en a marre de ces...
Je ne suis pas aussi excessif que vous, mais je n'aime pas l'idée de poser un genou par terre. Voilà ce que je dis depuis le départ. Je trouve je combats comme tout à chacun discrimination et racisme, mais je n'aime pas l'idée que nous, la France, devons s'excuser de quoi que ce soit. Je n'aime pas cette idée de repentance, je n'aime pas cette soumission, etc. C'est tout ce que je dis. Alors, restez quand même avec nous, Laurent, parce que Alexis Menuge, et c'est intéressant, est-ce que l'Allemagne a ce même débat ce soir avec sa Mannschaft, Alexis?
D'un côté, Pascal, on n'en parle pas du tout pour le moment. Je suis très curieux de voir ce soir au coup d'envoi si les Allemands vont mettre un genou à terre ou non. Je pense qu'on est plutôt vers un non et ça pourrait créer des débats dans l'autre direction par rapport à ce que vous faisiez comme débat depuis le début de l'émission. Mais en tout cas, on n'en parle pas du tout.
Mais je suis le premier surpris que ce débat soit aussi important dans l'émission. Hein. Je n'imaginais pas, en arrivant tout à l'heure à 11h30, que la première demi-heure des auditeurs ont la parole serait consacrée uniquement à ça. Je pensais qu'on parlerait foot, je pensais qu'on parlerait de préparation, que sais-je, de plaisir de revoir notre équipe, mais je n'imaginais pas qu'il y ait autant d'appels en ce sens-là.
Alors, en tout cas, les supporters qu'on a pu croiser ce matin dans Munich, il y en a beaucoup, très peu d'Allemands, énormément de Français qui ont pris le car, notamment de Dunkerque la nuit, qui reprendront le car après le match.
Mais ils vous ont parlé de ça?
Eux voulaient ça. Pas du tout, pas un instant. Non, c'est la fête, c'est le plaisir de retrouver enfin un stade, enfin
c'est
les Bleus.
C'est important de le dire,
en vrai.
Effectivement.
Et c'est ça le vrai plaisir. Et eux, ils sont vraiment chauds pour le match. Et ce débat, je ne l'ai pas du tout entendu, en tout cas, ce matin dans les rues munichoises.
Alexis, c'est intéressant parce qu'on a proposé, comme on le fait tous les jours, une question aux auditeurs. Et on a demandé, est-ce que vous pensez que la France est favorite? Et à 8% simplement, les auditeurs pensaient que la France allait gagner. Et à 70%, les auditeurs pensaient que l'Allemagne allait gagner. Alors que la France n'a plus perdu contre l'Allemagne depuis 2014, alors qu'elle est championne du monde, qu'elle est vice-championne d'Europe. C'est dire si il reste toujours, pour ceux qui nous écoutent, une forme de complexe face à l'Allemagne.
Oui, sans doute, c'est ça. Parce qu'en fait, si on regarde bien la trajectoire des deux nations depuis 3 ans, la France est grandement favorite, on peut même dire. Mais l'Allemagne, elle a toujours cet esprit de compétition, être prête au moment où il faut. Elle est vraiment, ce soir... sous pression, parce que ça fait 3 ans qu'elle ne performe plus, qu'elle est très décevante. On se rappelle de son élimination précoce à la Coupe du Monde en Russie, ce qui est plutôt inhabituel pour la Mannschaft, parce qu'on la voit souvent en demi-finale lors d'un Euro, d'une Coupe du Monde, très souvent même. C'est la nation la plus constante au niveau mondial dans l'histoire. Mais depuis 3 ans, on a vu aussi une défaite 6-0 en Espagne en Ligue des Nations, une défaite à domicile contre la Macédoine du Nord, 2-1 en l'éliminatoire de la prochaine Coupe du Monde, donc des résultats très surprenants. C'est vrai qu'on a le même sélectionneur en Allemagne depuis 15 ans, qu'il va enfin, et je parle au nom du peuple munichois et même allemand, il va tirer sa révérence à l'issue de cet Euro. Mais c'est vrai que les Allemands, eux, sont très pessimistes par contre. Si vous faites un sondage en Allemagne ce matin, ce serait plutôt 80% en faveur d'une victoire de l'équipe de France, qui est très appréciée et très respectée ici dans le sud de l'Allemagne.
Et vous, Alexis, qui êtes un spécialiste, un expert, votre sentiment sur ce match?
Moi, tout ce que je souhaite, c'est de retrouver les deux équipes en finale le 11 juillet prochain.
Là, je vous ai vendu comme un expert, mais vous m'avez fait une réponse de Normand. Merci en tout cas, Alexis Menuge. Vous êtes à Munich, évidemment, ce soir. Et nous pourrons, dès 20h45, être avec toute la team de RTL, autour d'Éric Silvestro, Philippe Sanfourche, Nicolas Georgerot, Giovanni Castaldi et toute l'équipe. Bien évidemment, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier.
L'éternelle question, la France va-t-elle battre l'Allemagne? Coup d'envoi à 21h. Où serez-vous ce soir? Chez des amis, au restaurant? Un beau menu en tout cas pour démarrer l'Euro. Kylian Mbappé a répondu à Philippe Sanfourche pour M6 et RTL.
J'ai une équipe comme l'Allemagne, ça vous met tout de suite dans le bain. Et ça vous met tout de suite dans l'intensité des grandes rencontres de l'Euro.
Nous avons des raisons d'être confiants. Écoutez le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, invité de Benjamin Sportouche ce matin.
L'équipe de France, techniquement, elle a rarement été aussi forte. Au niveau joueur offensif, au niveau peut-être du plaisir de jouer ensemble, c'est sûrement l'une des meilleures équipes de France depuis longtemps.
Sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Catherine pronostique un 2-1 pour la France. Stéphane regardera le match à la maison, va sortir pour les enfants. Les décorations, l'équipe de supporters, quoi qu'il arrive, on passera une bonne soirée. Mais j'ai peur qu'on en fasse un peu trop sur cette équipe, lance Florian. On répète qu'on est les meilleurs, qu'on fait peur, qu'on a une attaque de feu. Attention tout de même. Cher Pascal.
Oui Laurent.
L'Allemagne vous perturbe.
Mais non, j'étais en train évidemment de regarder ce qui se disait, pardonnez-moi. Donc Laurent était avec nous justement, notre ami boucher de Lille. Laurent, vous étiez très en colère, un peu trop en colère peut-être. La fête la fête ce soir. Par exemple, vous allez regarder le match comment ce soir?
Mais je vais regarder le match avec beaucoup de clients du bar. Bien évidemment, parce que je supporterai. Bien sûr, je dis, je suis pour la Mannschaft, je suis pour l'équipe de France.
Ah, vous irez aller être pour la Mannschaft pendant deux minutes, c'est un geste de colère, et puis après vous oublierez, vous allez retrouver quand même votre enthousiasme pour la France.
C'est comme Karim Benzema. Oui. Pour moi, c'est un gamin qui n'a pas de bol. Je suis pour Karim Benzema. Mmh. Je ne suis pas raciste. Mais j'en ai marre, tout simplement, de ces donneurs de leçons.
Oui, mais là où vous avez, ça va être très intéressant, parce que vous allez avoir Karim Benzema qui ne chante pas la Marseillaise et qui s'agenouille pour saluer des violences policières. Quoi, pour saluer? Pour combattre des violences policières qui se sont passées de l'autre côté des États-Unis. Donc, disons-le, c'est un paradoxe. Voilà. Mais moi, je ne veux pas rajouter de l'huile sur le feu, mais ça peut être un paradoxe. Marie est là. Bonjour Marie.
Oui, bonjour Pascal. Mmh. Félicitations pour vos émissions.
Bah vous êtes gentille, Marie. Bon, voilà. Vous nous avez contacté par Facebook d'ailleurs, parce qu'on peut appeler le 3210, mais on peut également nous appeler par Facebook.
Oui, tout à fait. J'ai ajouté un commentaire donc sur parce que je suis pas de foot du tout. Bien sûr, je suis contente quand les Français gagnent et se distinguent, mais ça s'arrête là. Et je pense que les revendications quelles qu'elles soient, et les démarches humanitaires.
Ah, manifestement Marie, on vous a perdu. Donc Marie, je pense que la ligne a été coupée. Bah écoutez, vous étiez a priori la dernière auditrice à vouloir vous exprimer sur l'affaire du genou, si j'ose dire. Et Bénédicte est là, Bénédicte qui est en Allemagne et qui nous appelle régulièrement, qui est avocate en Allemagne, qui vit en Allemagne et qui voulait peut-être davantage parler du match, Bénédicte, que de cette affaire de genou.
Je risquais pas parler de l'affaire du genou parce que j'étais même pas au courant, donc je viens de l'apprendre avec l'émission, donc.
C'est ce que nous disait également Alexis Menuge.
Exactement.
Bon, vous êtes, votre mari est français?
Non, allemand.
Oh là là. Donc à chaque fois qu'il y a un Allemagne-France, évidemment, c'est compliqué.
Bah, c'est toujours ou dans un sens ou dans un autre. C'est souvent une des deux meilleures équipes, une des équipes qui est meilleure que l'autre. Mmh. Donc là, mon mari est pour l'Allemagne, moi pour la France, et Raphaël, mon fils de 12 ans, lui m'a dit, de toute façon, moi je gagne. Oui. Que ce soit la France ou l'Allemagne, pour lui, c'est bien.
Vous êtes mariée depuis combien de temps, Bénédicte?
Ça fait 13 ans.
Donc, vous savez, ce sera votre quantième France-Allemagne ou Allemagne-France?
Oh, ça fait longtemps, j'ai commencé à regarder le foot en 96. Mmh. Donc, ça fait un bout de temps. Et puis après, on a eu, quand l'Allemagne a été championne du monde, j'ai eu la naissance de ma fille cette année-là. En 2018, le jour des 4 ans de ma fille, c'était la France qui était championne du monde. Donc, on verra s'il y a une finale France-Allemagne à la fin du tournoi.
Ça serait effectivement, pourquoi pas, une bonne idée. Est-ce que la rencontre ce soir en Allemagne est un événement aussi important qu'elle l'est en France ?
Vu que c'est l'équipe de France, oui. Ils y tiennent, ils reconnaissent vraiment les talents de l'équipe de France, les talents surtout individuels. Ils parlent d'un collectif allemand pour des talents individuels en France. Et ils ont beaucoup de respect pour l'équipe de France. Mon mari m'a juste dit, j'espère qu'on n'aura pas un 5-0. Un 2-1, ça lui irait à peu près. Il n'envisage pas beaucoup de gagner, mais il voudrait pas trop perdre.
Bon, et puis il y a quelques joueurs de l'équipe de France qui jouent en Allemagne, qui sont des célébrités.
Ah ben, du côté de Bayern, oui, effectivement, beaucoup. Et puis on a aussi à Mönchengladbach maintenant.
Donc non, on pense évidemment à Pavard, qui joue effectivement au Bayern Munich, notamment, qui avait marqué cette fameuse volée, et d'autres joueurs comme Tolisso, qui joue au Bayern, et qui sont des vedettes, peut-être en Allemagne d'ailleurs, Bénédicte.
Moins que Willy Sagnol, Franck Ribéry il y a quelques années, il commence à monter un petit peu, mais c'est surtout des anciens joueurs français dont on parlait beaucoup. Et là, c'est plus les joueurs qui sont à l'étranger, notamment en Espagne, ou au Paris Saint-Germain. Dont on parle plus de ce côté-là.
Bon, un petit pronostic, Bénédicte ?
Moi, j'aimerais bien 2-1.
Au moins pour ça la France ?
Oui.
Bon, et ce soir, vous êtes avec des amis ? Vous êtes en famille ?
On est à 3 déjà, avec mon fils, ma petite fille un petit peu petite, elle a 6 ans. Mais donc, ça fera un côté de l'autre, et puis mon fils au milieu entre les deux.
Votre fils, Raphaël, d'ailleurs, vous parlez français ou allemand à la maison ?
Alors, à la maison, c'est surtout allemand, mais lui, il va à l'école française, à côté de Düsseldorf, donc à 10 km de chez moi. Et ce qui est rigolo, c'est que maintenant, il connaît tous les joueurs français. Et donc, il parle de Kylian Mbappé, de la chanson sur N'Golo Kanté. Quand il est parti ce matin, il avait un t-shirt blanc et sur la joue, d'un côté droit, le drapeau français, de l'autre côté, le drapeau allemand.
Mais c'est formidable pour lui d'avoir cette double culture et d'être complètement bilingue.
Ah, totalement.
Mais vous lui parlez allemand quand même ?
Moi non, moi je lui parle français.
Oui, depuis toujours.
Moi depuis toujours, ouais.
Et quand son vous père l'aviez lui parle
allemand. Et quand vous l'aviez eu à la radio, vous avez dit, il y a un petit accent allemand, maintenant ça commence à aller un petit peu mieux, mais il a effectivement la double culture, enfin la triple, puisqu'en plus il a la culture ch'ti qui s'y rajoute.
Et je crois que la dernière fois que je vous avais eu, vous n'étiez pas venu en France depuis un long moment. Je ne sais pas si vous êtes revenu depuis.
Oui, ça m'avait brisé le cœur à Noël. Ouais. Je suis revenue la semaine dernière.
La dernière fois que je vous ai eu, c'est à Noël ?
Exactement.
Non, le temps passe vite.
Je suis revenue pour la première fois en France la semaine dernière et on a fait Noël.
Ah oui, vous avez fait. Écoutez, faire Noël au mois de juin, pourquoi pas ?
Donc, voilà.
Bon, ben merci beaucoup, Bénédicte. Vraiment, c'est un plaisir
bientôt.
Toujours de vous avoir parce qu'on a des auditeurs comme ça qui nous appellent de loin en loin. Mais c'est agréable, vous voyez. Je ne pensais pas que c'était au mois de décembre, la dernière fois, je vous avais eu quand même.
Et j'écouterai RTL ce soir en regardant les commentaires à la télé allemande. Donc, comme ça, j'ai les deux en même temps.
Oui, alors, mais de toute façon, vous avez le câble, j'imagine, vous avez toutes les télés françaises.
Je regarde le match en allemand et à télé allemande.
Parce que c'est sur M6, le match aussi. Hein. Vous avez le choix entre les commentaires d'M6 ou ceux d'RTL.
Bah, RTL, je suis très fidèle. Et puis les commentaires allemands de l'autre côté. Donc j'ai mes deux oreilles entre les deux.
Eh bien, c'était un plaisir, Bénédicte, de vous
plaisir
avoir.
Plaisir partagé. À très bientôt. Au revoir.
Nicolas Sarkozy est arrivé au tribunal. Le président de la République, il est arrivé quelques minutes après Thierry Herzog avec un masque. C'est la première fois qu'il vient dans le procès Big Malion. Je crois qu'il n'était même pas arrivé pour l'ouverture. Et aujourd'hui, il va être entendu. Il avait choisi cette stratégie de ne pas être présent durant les débats. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Mais qu'est-ce que ça ?
C'est Mireille Mathieu qui chante en allemand.
Ah, oui, mais.
C'est une illustration, ça va.
Mais quel est le rapport ?
Mireille Mathieu, France-Allemagne, la France qui chante en allemand.
Mais encore faut-il que la chanson ait un rapport avec notre sujet. Non ?
Ah si, alors je peux vous mettre ça si vous voulez. L'hymne de l'Europe, on a entendu 100 fois déjà. J'essaie d'être un peu original. Bon. Pourtant, Mireille Mathieu, ça vous plaît normalement. Moi aussi d'ailleurs.
J'aime votre humour. Marie est là, on a retrouvé Marie qui voulait terminer sur le genou à terre.
Voilà, et j'entendais Mireille Mathieu et je croyais que c'était du japonais. voilà.
C'est pas gentil, parce que si elle parle allemand et vous pensez que c'est du japonais,
Franchement, c'est pas gentil pour elle.
Ouais. Non, c'est pas gentil. Non, c'est vrai que je pense que toutes les opinions doivent être laissées dans les vestiaires et que le sport est un moment d'harmonie et de consensus par des gens qui mettent de côté leurs opinions politiques, leurs combats, etc. Parce que libre à eux de mener, tous ces joueurs, de mener des combats humanitaires en dehors du terrain. De toute façon, ils doivent avoir la possibilité de le faire. Et je reste dubitative quant à leur voyage au Qatar pour les championnats du monde, parce que là aussi, il y a de quoi mettre les deux genoux à terre, voire de se rouler par terre quant aux droits de l'homme, aux droits des homosexuels, des femmes adultères, etc.
Vous avez évidemment raison, c'est le deux poids deux mesures qui peut surprendre comme toujours. Et bien sûr que ce que vous dites est imparable.
Voilà, donc ça n'a rien à faire. Et pourtant, j'étais sportive, hein, j'ai pratiqué beaucoup de sport. Mais justement, le plaisir de se retrouver, de se rencontrer, de se mesurer en dehors de toute actualité, c'est reposant et c'est fédérateur. Je veux dire, ce qui enthousiasme les peuples, c'est aussi la fédération derrière un jeu, un sport, un art, etc. Donc, on doit oublier ses opinions politiques dans ces cas-là. Enfin, c'est ce que je pense.
Bah écoutez, Marie, c'est intéressant de vous entendre. Vous allez regarder le match ce soir ?
Oh, pas du tout.
Ah bon ?
Non. Je regarderai les résultats. De temps en temps, je zapperai pour regarder où on en est. Mais
vous regardez jamais beaucoup les matchs de foot ?
Non, j'aime pas. Pas plus que le tennis. Si j'ouvre un œil sur le rugby, parce que je trouve ça très animé, mais le foot, non.
Ça vous ennuie ?
Ça m'intéresse guère. Mmh. J'aime les athlètes, hein, j'aime les sportifs, mais pas particulièrement le foot, pas plus qu'un autre art. Hein. Ce serait de l'aviron, pour moi, ce serait exactement la même chose.
Merci beaucoup, Marie. Merci.
Je vous en prie, Pascal, félicitations encore.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Retour au foot, peut-être, avec Stéphane, qui est président d'une association d'arbitres. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour Pascal.
C'est bien de défendre les arbitres. Je ne sais pas si vous êtes un fan ou pas d'ailleurs de l'arbitrage vidéo.
L'arbitrage vidéo, c'est devenu maintenant, on va dire, c'est devenu maintenant une obligation. Quand elle est très bien utilisée, il n'y a aucun souci. Voilà.
Comme vous dites, quand c'est très bien utilisé. Comment vous voyez les choses ce soir ?
Alors ce soir, bah déjà très très impatient de voir l'équipe de France en mode compétition, parce que jusqu'à présent, les matchs amicaux, moi, m'ont pas encore persuadé qu'on était dedans. D'un côté, affronter l'Allemagne tout de suite, je pense qu'il va avoir du spectacle. Moi, je vois un match nul 2-2, parce que jusqu'à présent, on a affronté des équipes bien moins forte que l'Allemagne. Donc moi, je vois le match nul. Voilà.
Et quels sont nos points forts, à votre avis ?
Le point fort, le milieu de terrain récupérateur et qui va distribuer les ballons, on va dire, aux attaquants. Maintenant, le schéma de jeu avec Benzema, moi, je suis un peu encore en attente, tout simplement parce qu'il n'y a pas encore vraiment bien les automatismes. Quand il y aura, je suis plus confiant, plus la compétition va avancer, plus je serai confiant. Mais là, actuellement, je suis un peu. J'attends de voir.
Et quels sont les points faibles, selon vous ?
Le mental.
Ah, c'est étonnant que vous disiez ça, parce qu'au contraire, moi, j'ai l'impression que c'est un point fort, le mental, c'est des guerriers.
Ah bon ?
Ah, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, vous avez une génération, c'est pas nouveau d'ailleurs, mais de joueurs aguerris, parfois incroyablement jeunes, mais déjà très forts dans leur tête, qui ont une grosse expérience parfois à l'étranger et qui n'ont plus du tout les doutes qui traversaient parfois les sélections, je dirais, il y a plus de 20 ans maintenant, hein, d'ailleurs. C'est surtout dans les années 70 et 80.
Ouais, enfin bon, moi, il y a des joueurs là que en club, je vois très très bien. Il y a aucun souci. En équipe de France, peut-être un peu moins.
Voilà. Par exemple.
Par exemple, moi, je suis désolé, je vais prendre à contre-pied tout le monde. Moi, Mbappé, je suis pas. Voilà,
c'est pas fan.
Selon le match et selon.
Vous avez des réticences.
Voilà, tout à fait.
Bah écoutez, c'est pour ça que c'est intéressant de vous écouter d'ailleurs. Ce soir, vous regardez le match avec des amis, en famille ?
Alors avec ma fille.
Quel âge elle a ?
17.
Bon, passionnée de foot ?
Passionnée de foot, joueuse.
Non, ça c'est bien.
Si.
C'est bien.
Donc
dans un club.
Dans un club, ouais. Ils ont une équipe féminine, donc voilà.
Et vous êtes tous les deux ?
Et on sera tous les deux à regarder. Et cette fois-ci, je ne regarderai pas l'arbitrage.
Bon, petit dîner peut-être devant la télé d'organiser. C'est vous qui avez fait les courses ?
Non, pas de dîner spécifique. Je pense que...
On dînera avant.
On dînera avant, voilà, c'est
d'accord.
Ça. Tout à fait.
Bon, bah écoutez, merci Stéphane et bonne soirée.
De rien.
À vous.
Merci.
La pause, et puis Sylvain nous attend, Lucas nous attend. Greg, ce soir, vous êtes devant votre poste ?
Je crois pas, non.
Ah bon ?
Non. Derrière mon poste de radio, certainement, mais pas devant mon poste de télé. J'écouterai le match sur RTL. Je le regarderai pas, je pense que je dînerai en écoutant la radio.
Écoutez, vous me surprenez. C'est aussi parfois intéressant de regarder les matchs dans les bars. Il y a une ambiance, une atmosphère, et puis on partage. Pour le coup, c'est vraiment agréable de partager ces moments-là.
Vous le regarderez chez vous, vous ?
Je pense que je vais le regarder dans un bar, pour tout vous dire.
D'accord.
Ce soir, en sortant de mon travail.
Je vois.
À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Sylvain est là. Bonjour Sylvain, qui habite Trentemoux, en Loire-Atlantique, tout près de Nantes.
Oui, bonjour Pascal.
Comment vous voyez les choses, Sylvain ? Bonjour.
Ah ben moi, je les vois très très bien les choses. Moi. Je ne suis pas du tout d'accord avec les auditeurs qu'on parlait avant. On va gagner, on est les meilleurs. Mmh. À tous les postes.
Bah, à tous les postes. Est-ce que Loris est meilleur que Neuer, par exemple ?
Bah, Loris, c'est Loris. Hein.
Oui, et Neuer, c'est Neuer.
Ouais, Neuer, c'est Neuer, mais je suis
français. C'est deux très bons gardiens, mais je ne sais pas si Loris est meilleur que Neuer.
Non, je ne dirais pas qu'il est meilleur, mais moi, je dis qu'à tous les postes... On parlait tout à l'heure, votre auditeur parlait tout à l'heure de Niak et d'Envy. Mmh. Bon, j'ai 53 ans, donc moi, Séville 82, ça a été ma première Coupe du Monde. Et voilà, quoi, ils n'avaient pas... J'adorais les joueurs, mais... Ils n'avaient pas la même niaque, là, Mbappé. Ils sont tous sur deux. J'aime bien, moi, cette mentalité dans le sport. Pas forcément dans le football, mais dans le sport. C'est bien de dire on va aller au bout, on va gagner. Moi, je trouve que c'est génial, quoi. Et puis, avec cette pandémie de... Hein, pardon. Là, c'est l'Euro 2021, mais normalement, c'était l'Euro 2020. Donc... Moi, ça me manque. Et puis, c'est ce que
ça nous manque. Qu'est-ce que vous craignez, par exemple, ce soir ? Vous êtes optimiste, mais est-ce qu'il y a des choses quand même que vous...
Je ne crains rien du tout.
Bon. Donc, vous pensez...
Je suis sûr de l'équipe de France. Moi, je vois un 2-0. Mais on a des joueurs incroyables, quoi. Incroyables.
Vous suivez le football depuis toujours, manifestement, Sylvain ?
Oui.
Est-ce que à 53 ans, c'est le rapport le plus fort que vous ayez avec une des équipes de France parce que elle a été championne du monde il y a 2 ans maintenant, c'était en 2020.
3 ans.
Il y a 3 ans, 2018. Donc c'était il y a 3 ans. Est-ce que c'est une des équipes de France qui vous procure le plus de joie, de plaisir ?
Pas forcément, mais je trouve qu'on est clinique. Voilà, je trouve qu'on est clinique.
On s'est almanisé peut-être.
Ben exactement, c'est ce que exactement je trouve.
C'est-à-dire qu'on est peut-être moins flamboyant, mais plus efficace.
Tout à fait, ben c'est exactement ça. Vous avez entièrement raison, c'est ce que j'allais vous dire. Mmh. Et je ne sais plus qui disait, je crois que c'est Gary Lineker qui disait que quand il y a une compétition, c'est toujours l'Allemagne qui gagne à la fin. Non, c'est pas lui qui a dit ça.
Le football, c'est un jeu qui se joue à 11 et voilà. Où l'Allemagne gagne à la fin. Et on pourrait remplacer maintenant l'Allemagne par France.
Oh, ben oui, parce que moi, ils me font plus peur.
C'est marrant parce que les auditeurs quand même d'RTL pensaient qu'à 8% simplement on allait gagner contre la France, contre l'Allemagne ce soir.
quand j'ai entendu ça, j'étais super étonné, quoi. Ou alors c'est sur un panel de 1000 personnes, quoi. Mais
alors c'est pas un d'ailleurs c'est pas un panel, on dit c'est pas un sondage qu'on fait, c'est une consultation, donc les gens appellent comme ils veulent, hein, ils votent comme ils veulent, vous voyez. Donc c'est pas représentatif, ça a pas le côté un peu scientifique que peut avoir un sondage. C'est la question qu'on pose tous les jours.
Ce que je me dis aussi, vous voyez, je vais vous dire, j'étais anti Benzema, moi. Et ça m'a fait plaisir quand même qu'ils se rabibochent tous les deux, Nadège et Benzema. Parce que je me suis dit, quand même, voilà, c'est bien, il faut, c'est bien. Et puis j'ai vu ces deux matchs, je l'ai trouvé bon. De toute façon, il est bon. Je l'ai trouvé bon. Et quand même, Griezmann, Benzema, Mbappé, et puis je vous dis, au milieu de terrain, il n'y a rien à craindre, derrière, il n'y a rien à craindre. Le seul problème, c'est nous, quoi. C'est avoir peur de nous.
Je suis d'accord. Vous êtes de 68, manifestement, Sylvain.
Tout à fait.
Comme Didier Deschamps.
Oui, tout à fait.
Vous avez l'âge de Didier Deschamps.
Et Deschamps, voilà, quoi. C'est. Excusez-moi du terme, hein. Vous connaissez la chatte à Deschamps, mais.
Je n'irai pas jusque-là. Mais. Moi, j'aime pas quand on dit ça parce que c'est pas que de la chance, quoi.
Non,
c'est pas,
non, voilà, non. C'est... non. Mais ça me fait rire. Oui. C'est quand même un grand monsieur. Hein.
Ah, ça, je suis d'accord avec vous. Et puis, il fait partie de ces gens qui ont tout réussi dans leur domaine, donc c'est quand même pas si fréquent.
À part l'Euro, mais bon, voilà.
Oui, mais champion du monde comme joueur, champion du monde comme entraîneur, ah oui. Comme sélectionneur. Bon, avouez que c'est des. Voilà, c'est des vies. Vous l'avez vu à Nantes parce que vous êtes à Nantes depuis toujours ?
Non, je suis parisien, moi. Ça fait 3 ans que je suis à Trente-Mou. Mais oui, évidemment que je connais l'équipe de Nantes.
J'ai vu commencer Didier Deschamps à Nantes, vous vous rendez compte ? Et je l'ai même vu en cadets nationaux. J'allais pour West France faire des petits papiers quand j'avais 17 ou 18 ans. Il est de 68. Il est arrivé à Nantes, je crois, en 83, Deschamps, il me semble. Donc il avait 15 ans ou 14 ans. Et moi, j'ai dû le voir en 85, 86. Il était cadet nationaux et je faisais des petits papiers pour West France. Et je le suivais. Et donc, je le connais depuis toujours. C'est ça qui est formidable, d'ailleurs, de voir le parcours d'un homme comme ça, qui a tout réussi. C'est merveilleux.
C'est exceptionnel. Mais justement,
Resté sympa. Vous voyez, qui est vraiment resté sympa, oui. Proximité, qui est vraiment...
ça ne m'étonne pas.
Qui est vraiment d'abord un entraîneur formidable. Oui, je suis d'accord avec vous. Et qui est passionné par ce qu'il fait depuis toujours et c'est formidable. Voit, hein, c'est formidable. De toute façon.
Et je voulais juste vous dire un truc, c'est que tout à l'heure sur RTL, on a entendu Marius Trésor et ça m'a fait énormément plaisir.
Ça ne m'étonne pas, je suis comme vous, parce que c'est notre jeunesse.
C'est notre jeunesse et puis c'était une sacrée équipe quand même en 82.
Sylvain, vous paraissez ému en parlant.
Ouais. Tout à fait, ouais.
Ah oui, vous aviez 14 ans ce soir-là, c'était le 8 juillet 1982.
Et vous savez où j'étais ?
Non.
J'étais en Allemagne.
Non, ce soir-là, vous aviez 14 ans ?
Oui, j'étais dans la famille en Allemagne. J'ai ma grand-mère qui m'avait préparé des crêpes pour le match. Et c'est le match le plus horrible que j'ai vu de ma vie.
Mais c'est drôle parce que vous voyez, quand il se passe un grand événement, immédiatement chacun se replace, sait où il était, comment il a vécu.
Une génération, tout à fait, hein.
C'est ça qui est formidable. Et vous vous souvenez des crêpes de votre grand-mère, vous vous rendez compte ?
Ah oui, je me souviens de Thierry Roland qui disait, vas-y, tire, Giresse.
Ouais, c'est Jean-Michel qui dit, en retrait pour Giresse.
En retrait pour Giresse, je m'en souviens très bien.
Et Thierry qui dit, extraordinaire dénouement, 3e but de l'équipe de France dans la Giresse. Et je crois que cette fois-ci, nous sommes en finale de la Coupe du Monde.
Et
10 minutes après, boum. Rummenig, et après, le dernier but, c'est qui ? C'est Breitner ?
Oui, il me semble.
Je me souviens du dernier pénalty, c'est Rubesch, mais c'est Rubesch, Breitner. Ouais. Bon, écoutez, Sylvain, on fait un peu vieux tous les deux à parler de ça. Hein. Franchement, bon. Mais moi, je vais vous dire un truc, je me souviens aussi des crêpes de ma grand-mère. C'est ça qui est drôle. Mais c'était pas ce soir-là, mais je me souviens des crêpes de ma grand-mère. Merci, Sylvain.
2-0 pour la France, ce soir.
Ah ouais, c'est sympa de vous avoir eu. Et puis, vive Trente-Mou !
Ouais, c'est joli, hein.
Ah, c'est très joli, Trente-Mou, c'est sur la Loire. Il y a un restaurant qui est célèbre. Bon, il est très en retard, là. Il me fait des grands, parce que moi, je parle de ma vie, comme toujours, mais il me fait des grands signes, Greg Caradoni. On va être très en retard pour le flash. Merci, Sylvain. À tout de suite.
Bonne journée.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RT.
Il est 14h01. Le flash Olivier Bois.
Nicolas Sarkozy est arrivé il y a une demi-heure à peu près au tribunal de Paris dans le cadre du procès Big Malion. Il est interrogé pour s'expliquer sur les dépenses de sa campagne 2012. Les plafonds autorisés avaient été largement dépassés. Il n'est pas jugé pour avoir mis en place ce système de double facturation avec l'entreprise Big Malion, mais les enquêteurs avaient estimé qu'il avait laissé s'envoler les dépenses sans chercher à savoir. La filiale française du groupe IKEA est condamnée à 1 million d'euros d'amende. Un ancien PDG est lui condamné à de la prison avec sursis. Reconnu coupable donc d'avoir fait surveiller des salariés, notamment des syndicalistes, grâce à d'anciens policiers, ils avaient pu avoir accès à des fichiers confidentiels d'antécédents de justice, par exemple. L'équipe de France de football commence son Euro ce soir avec un match au sommet face à l'Allemagne, le champion du monde 2014 face au champion du monde 2018. Deux des favoris donc de la compétition, coup d'envoi à 21h, soirée spéciale sur RTL. Le match à suivre est à suivre également sur M6. Et soyez rassurés sur votre soirée. Policiers et gendarmes ont reçu la consigne d'être tolérants juste après 23h pour vous laisser le temps de rentrer chez vous après le coup de sifflet final. Les 12-18 ans peuvent se faire vacciner depuis ce matin avec l'autorisation des parents. L'épidémie est toujours en décrue en France sous les 5000 cas quotidiens. Le variant Delta ou variant indien représente à ce jour 2 à 4% des cas en France. On termine avec le quintet à Compiègne. Voici l'arrivée provisoire à l'instant. Le 5, il y a photo finish entre là, c'est le 16, le 14... et le 6.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Vous aurez le choix ce soir, merci Olivier. Vous pourrez écouter le match à la radio à partir de 20h prise d'antenne avec Eric Silvestro et Giovanni Castelli. Le match avec Philippe Sanfourche et Nicolas Georgerot à partir de 21h. Et puis si vous voulez le regarder sur M6, il y a l'avant-match qui est présenté par Marie Portolano qui sera avec Xavier Domergue et Robert Pires et toutes les équipes de M6 sur le terrain. Le match lui sera commenté par Xavier Domergue et Robert Pires et accompagné de Karine Galli qui est au bord du terrain. Et puis il y aura un débrief d'après-match 100% euro en direct de M6 sous l'impulsion de Marie Portolano. Et de la même manière sur RTL, il y aura un débrief avec Eric Silvestro et Giovanni Castaldi.
Et de la même manière, à 14h20, il y aura un débrief des auditeurs ont la parole avec Laurent Tessier.
Exactement, il y a chacun son débrief. Lucas, bonjour Lucas.
Bonjour.
Vous êtes étudiant Lucas?
C'est ça.
En prépa littéraire?
Exactement.
Vous avez 20 ans.
C'est ça.
Et ce soir, vous allez être devant votre téléviseur.
Bien entendu, on serait même dehors.
Avec des amis.
Exactement. En espérant une belle fête. Un beau match. Moi, je vois la victoire française quand même, même si ce sera difficile en Allemagne. Parce qu'il y aura des supporters, du coup. Ce qui fait plaisir, d'ailleurs. Mais je pense que notre équipe, elle est supérieure. Sur tous les plans, ou surtout offensif. En plus, ils arrivent à bien jouer ensemble, donc c'est un vrai régal. S'ils arrivent vraiment à avoir un niveau de jeu très élevé comme ils peuvent avoir en club, je pense que la défense allemande, elle fera pas long feu, même s'il y a Neuer dans les buts.
Donc vous êtes de 2001, hein, Lucas?
2000.
2000. Ouais. Donc vous êtes dans votre 21e année. Vous êtes un 2001, comme on dit, parce que maintenant c'est ce qu'on dit pour qualifier ceux qui sont nés de... On disait pas ça avant, on disait pas un 48 ou un 47, mais maintenant on dit vous êtes un 2001.
Ouais, mais je suis un 2000 du coup, moi.
Oui, vous
mais,
êtes un 2000.
C'est ça. La belle année de la France.
Vous êtes un 2000, effectivement, l'année du championnat d'Europe. Donc, vos premiers souvenirs de foot, c'est quand? De l'équipe de France.
De l'équipe de France, j'ai le souvenir de la Coupe du Monde 2006. J'en ai quelques-uns.
Ah, dites non, là, vous n'êtes pas vieux pourtant, vous avez 6 ans.
Ouais, j'ai 6 ans, mais j'ai quelques souvenirs. Rapidement, pour le France-Brésil, je crois que c'était quart de finale.
Bien sûr, avec un but de Thierry Henry sur passe de Zidane.
J'avais aussi quelques souvenirs du France-Espagne.
Un but de Ribéry.
Ouais, et le.
De Zidane aussi d'ailleurs.
De France-Italie, bien sûr, en finale.
Ah bah, vous avez beaucoup de souvenirs en fait, en 2006.
J'ai quelques souvenirs des matchs. Par exemple, pour France-Italie, le souvenir qui m'a vraiment marqué, c'est après le pénalty manqué de Trezeguet, les Italiens qui courent sur le terrain pour fêter la victoire. C'est vraiment l'un des seuls souvenirs qui me reste de cette finale.
Et quelle est votre plus belle émotion avec les Bleus?
Je pense France-Argentine 2018, hein. Parce que pour moi, c'est le match qui nous fait gagner la Coupe du Monde. Ce but de Pavard, si on égalise autrement, je suis pas sûr qu'on va au bout. Parce que ce but, il nous a boosté, il nous a motivé et on s'est senti inarrêtable après et ça a été le cas.
Je suis d'accord avec vous, parfois il reste un match, c'est pas toujours la finale, ça peut l'être, hein. Non, mais ouais. De 2018, c'est France-Argentine qui restera. Ouais. Plus que France-Croatie qui est pourtant la finale.
Ouais, mais France-Croatie, on a plus, même si on prend 2 buts, on a quand même plus dominé les débats. C'était quand même un peu moins serré que ce France-Argentine qui était complètement indécis.
Quels sont les points forts de l'équipe de France pour vous?
Bon, il y en a beaucoup quand même. Je pense qu'on a une attaque incroyable. Le milieu l'est tout autant, surtout quand Paul Pogba hausse son niveau de jeu, ce qu'il fait souvent en équipe de France d'ailleurs. La défense, elle est bonne aussi. Et puis le gardien...
Donc tout est parfait. Mais vous avez des craintes quand même ?
Bah, la crainte principale, ça peut être l'excès de confiance. Parce que en France, on ne voit pas une autre meilleure équipe. En Europe, il y a difficilement mieux. Enfin, même les autres Européens voient difficilement une meilleure équipe que l'équipe de France. Donc il ne faudra pas faire un excès de confiance parce qu'on a déjà deux grosses équipes à affronter dans cette phase de poule. Mais je pense qu'il y a normalement aucune, si on joue correctement, aucune équipe peut nous arrêter.
En début d'émission, on a parlé des Français qui vont poser un genou à terre en début de match. Est-ce que c'est un sujet qui vous concerne ?
C'est... Ils font ce qu'ils veulent. Après, si pour eux, ils se sentent bien de le faire, ils le font. Si certains ne veulent pas le faire, ils ne le font pas. Moi, je suis plus concentré sur le côté sportif de la rencontre.
Et ce soir, vous regardez avec des amis ?
C'est ça, ouais, au bar.
C'est bien au bar. Hein. Il y a quelque chose de joyeux, de festif au bar.
Oui, c'est ça, parce que tout le monde est là pour le match, pour s'amuser, pour être content. Donc, c'est une bonne ambiance.
Ça, c'est nouveau. Vous savez que dans le temps, il y a 40 ans, on ne regardait pas au bar, hein, parce que les écrans étaient tout petits, donc on regardait chez soi.
C'est vrai, ouais.
Mais depuis, je ne sais pas, 25 ans, les écrans sont dans les bars et ça, la perception de l'événement est différente. Vous êtes avec quelques potes ?
C'est ça, ouais.
Vous êtes combien ?
On sera 4, je crois, là.
Garçon ou fille ?
Les deux.
Les deux. Bon, bah écoutez, c'est bien, Lucas. Un petit pronostic ?
2-1 pour l'équipe de France avec un but de Karim Benzema.
Merci, Lucas. Merci beaucoup. 14h08, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Nous sommes avec Jackie, qui est éducateur au Stade Rennais, donc qui est un footeux, manifestement.
Oui, bonjour Pascal.
Bonjour Jackie.
Bah écoutez, ouais, je suis impatient, j'ai hâte d'être à 21h. Je regarderai peut-être, si j'ai le temps, le match d'avant pour voir un petit peu face à qui on va jouer derrière. Mais bon, ce qui m'intéresse ce soir, comme disait l'auditeur qui était assez pertinent tout à l'heure, à 53 ans, j'ai oublié son prénom. Je ne crains rien ce soir face à l'Allemagne, puisqu'on a une très très belle équipe. On s'était eu longuement, Pascal, au mois de mars, avec le débat Benzema doit-il y être ? Il y est. Manifestement, Didier Deschamps écoute RTL, c'est bien. Et donc, on a tout ce qu'il faut, on va dire, pour avoir un beau match avec deux belles équipes. Et moi, ce que j'attends, c'est effectivement cette animation offensive avec ce milieu qui est quand même incroyable aussi. En ce moment, avec un Kanté qui est très très en forme, Pogba au top. Et puis donc j'attends de voir comment la mayonnaise va prendre, voir si les automatismes sont là et si face à cette défense effectivement à 3 ça se passe plutôt bien. Alors il va y avoir des matchs dans le match, c'est ça qui va être intéressant à regarder. Moi j'ai très très envie de voir Benzema face à Neuer, hein, et parce qu'il a quelques mauvais souvenirs face à Neuer en 2014, hein, c'est les derniers moments où il l'avait affronté. Et Hummels effectivement qui avait marqué en quart de finale 2014 face à Benzema qui malheureusement avait été éliminé à ce moment-là. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui vont être intéressantes, sachant qu'on est dans une formule à 24 équipes, hein, même si on perd ce soir, on peut être qualifié pour la suite, donc c'est pas un souci. Donc il faut jouer libéré, et puis comme on dit toujours, hein, quand on est éducateur, on joue comme on s'entraîne. Donc apparemment, ça s'est plutôt bien passé la préparation, les matchs amicaux ont été plutôt sympathiques. Deux modes de fonctionnement différents avec Benzema et sans Benzema. Bon, on a vu que dans les deux cas, les choses fonctionnaient plutôt pas mal. J'ai préféré avec Benzema. Donc, on verra comment les animations s'organisent. Et puis, s'il faut faire rentrer donc Konan et Dembélé sur les côtés pour alimenter un Giroud, bah, pourquoi pas. Et puis, on verra effectivement le résultat. Mais oui, les Allemands peuvent nous craindre. Nous, on n'a pas à craindre personne. Aujourd'hui, on est armé pour gagner. Et puis ben, le tout étant que tout se rôde progressivement parce que c'est un mois de compétition, ça va se jouer dans les détails, hein, comme
chaque fois qu'il y a des phases finales comme ça. Hein. Le détail de 82, je me rappelle encore. Hein. Moi, j'ai 54 ans et je peux vous dire que ouais, il faut, le match, ça dure.
Mais 82, c'est vraiment une autre époque. Et justement, ouais. Je voulais vous parler de ça parce que vous êtes éducateur et c'est vrai que les mentalités ont changé. Ce qui frappait dans ces années-là, c'est qu'il existait une forme de complexe d'infériorité, notamment des Français vis-à-vis de l'Allemagne, ouais. Et que ce complexe non seulement n'existe plus, mais il est à l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des guerriers, ce qui n'était pas le cas avant.
On a des guerriers aguerris, effectivement, en Ligue des Champions chaque année. Et puis, ben, à Munich, hein, ils ne seront pas en terrain inconnu. Hein, Hernandez, Pavard, ils connaissent hein, le terrain par cœur. Donc, ils connaissent les adversaires par cœur. Et puis, ben, aujourd'hui, effectivement, ils sont au quotidien face à des oppositions de haut calibre. Donc, pour nous, c'est pas un problème de niveau. Après, c'est juste un problème d'animation et de pouvoir, effectivement, transformer toutes les occasions qui vont se présenter. Parce qu'après, il faut être efficace. Quoi.
Ben merci. Merci beaucoup, Jackie, parce que vous parlez comme un expert que vous êtes, hein, d'ailleurs. Et c'est vrai que vous avez rappelé que Hummels et Neuer étaient déjà là en 2014, il y a 7 ans, ouais. À la Coupe du Monde au Brésil. Déjà 7 ans. Dans cette équipe dans laquelle on retrouvera ce soir notamment Kimmich, Kroos.
Oui, et puis il a rappelé Müller aussi comme leader, hein, parce que sûr. C'est vrai que face à la France, il faut un peu d'expérience. Et c'est vrai que ces trois-là, Neuer, Hummels et Müller, vont apporter effectivement leur expérience face à une équipe jeune, en reconstruction partielle, on va dire, parce que c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de mal ces derniers temps. Donc on va voir le résultat, mais ça fait sur le papier saliver, ouais.
Merci beaucoup, Jackie. On va être avec Michael. Je vous ai d'ailleurs pas donné l'équipe de France possible. Loris dans les buts, Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez, Pogba, Kanté, Rabiot et Griezmann, Benzema, Mbappé. Il est possible qu'on ait rarement eu une attaque aussi performante sur le papier. Griezmann, Benzema et Mbappé. Après, il faut que tout cela fonctionne ensemble. Bonjour, Michael.
Bonjour.
Vous êtes étudiant.
Oui, c'est ça.
Et peut-être que vous allez nous mettre en garde.
Nous mettre en garde, oui et non, parce que je pense que l'Allemagne, comme on le sait tous, ils ont des très bons joueurs qui jouent dans les meilleurs championnats européens. Mais à l'heure actuelle, on ne fait pas vraiment ce que l'équipe vaut. Ils restent sur un mondial 2018 qui a été catastrophique. Mais après, je mets légèrement en garde parce que ils sont quand même à domicile. Ils vont jouer d'ailleurs leurs 3 matchs, si je ne dis pas de bêtises, à domicile. Et ça, c'est la dernière compétition de Joachim Löw, donc je pense qu'il aura à cœur de réussir. Mais après, on sait qu'on est champion du monde, on est un des favoris de la compétition, donc il va falloir assumer ça. On sait les forces en présence, qu'on a, avec notamment cette attaque de feu que vous avez citée. Et si je dis pas de bêtises, la dernière fois qu'on a perdu contre eux, c'était au Mondial 2014.
Exactement, il y a 7 ans.
Je pense qu'on est favoris, mais faut pas les sous-estimer non plus, et ça va être un sacré combat physique à mon avis.
Comment vous allez regarder le match ce soir ?
Je vais le regarder avec des amis, en essayant de ne pas être trop nombreux à cause du Covid. Mais je vais le regarder avec des amis sur un grand écran.
Mais vous êtes à l'extérieur ou à l'intérieur ?
Non, on va être à l'intérieur chez un ami à moi.
Donc effectivement, il faut être méfiant. Vous avez raison d'ailleurs, c'est responsable ce que vous dites. C'est quelque chose que vous avez, auquel vous pensez de manière importante, la possibilité du Covid toujours ?
Moi personnellement, je me suis fait vacciner. Je trouve que c'est important. J'invite tout le monde à aller le faire pour que ça aille de mieux en mieux. Mais c'est vrai qu'on fait toujours attention. On évite de se regrouper parce que moi, si je me regroupe avec tous mes amis, on peut facilement être 15 ou 20. Donc on évite de se regrouper tous ensemble. On fait par petits groupes 5 ou 6. Puis voilà, on fait attention aux gestes barrières, etc. C'est important, ouais.
Eh ben merci beaucoup, Michael. Il nous reste quelques minutes. Il y aura le débrief dans une seconde. Merci beaucoup et à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
C'est le championnat d'Europe des Nations, vous le savez. La France rencontre l'Allemagne ce soir. Et la France a déjà rencontré une seule fois d'ailleurs l'Allemagne en championnat d'Europe des Nations phase finale. C'était en 2016. Et la France avait gagné 2-0 à Marseille. Vous vous souvenez peut-être de cette rencontre. La dernière rencontre jouée, elle était en 2018. Le 16 octobre 2018, la France l'avait emportée 2-1. Avant, il y avait eu 0-0 entre l'Allemagne et la France. Il y avait également eu un match amical 2-2. C'était en 2017 et c'est vrai que la France n'a plus perdu face à l'Allemagne depuis 2014. On est avec Jordan qui habite Strasbourg. Bonjour Jordan.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous vous apprêtez à être avec vos amis, peut-être en terrasse, et à regarder ce match.
Oui, ce qui était prévu il y a longtemps. Donc ce soir, on va regarder sur une terrasse avec des amis. Voilà.
Et quel est votre sentiment, votre pronostic ?
Bah moi, je les ai donnés gagnants. J'ai mis 2-0 pour la France. Mais bon, ce qui me chagrine un peu, c'est notre défense.
Pourquoi ?
Je la trouve un peu lourde.
Un peu haute ou lourde ?
Lourde, lourde.
Lourde ? Mais Varane, oui. Vous le trouvez lourd ? Kimpembe, oui. Vous le trouvez lourd ?
Oui. Bon, ils sont pas, c'est pas la sécurité.
C'est pas
derrière.
Rapide ?
Non, voilà. Parce qu'ils lent. Sont très lents.
Bah, très lent, Pavard, il n'est pas très lent.
Bah, c'est central, moi. Plutôt, c'est la défense centrale qui m'inquiète le plus.
Varane. Côté,
c'est Varane et Kimpembe, c'est un peu... On a la meilleure attaque du monde, c'est sûr. Mmh. On a un très bon milieu de terrain. Par contre, derrière, ça m'inquiète.
Bah, c'est intéressant parce que vous êtes le premier à dire ça. Et depuis le départ, j'interroge sur les forces et les faiblesses de l'équipe de France. Et personne n'était aussi précis que vous pour remettre en cause cette défense centrale. Donc, si demain, on prend des buts, je vais vous rappeler.
Je pense qu'on en prend. Enfin, j'espère qu'on en prendra pas. Mais si on a des soucis, ça sera plutôt derrière. Mmh. Ça sera sûrement au milieu de ça. Parce que moi, Varane n'a pas joué beaucoup cette année. Kimpembe, s'il n'est pas dans un grand jour, alors là, ça va être une catastrophe. Voilà. Et voilà. Donc, franchement, on peut marquer. Sûr, on va marquer.
Ah, bah oui, on peut. Ça, si tu marques pas avec Benzema.
Oui, mais bon.
Griezmann.
Rappelez-vous, en 82, je pense, en Coupe du Monde, on a aussi la meilleure attaque du monde. On a marqué un but ou deux, je ne me rappelle plus.
En 82 ?
Non, je sais plus, quand on avait joué en Corée, je sais plus en Coupe
du Monde. Là, c'était en 2002. Mais là, on avait marqué 0 but.
Voilà.
C'était un truc encore extraordinaire. On avait fait 3 matchs, 0 but, dernier. On était dernier, on n'avait pas marqué un point.
Mais là, je pense que de nos jours, je pense qu'on a une très bonne attaque et je pense qu'on va marquer.
On avait marqué un point, d'ailleurs.
Mais je pense qu'on va avoir des soucis, c'est derrière.
Écoutez, Jordan, j'espère que vous ne serez pas entendu, mais en même temps, bon, vous êtes un expert, vous aussi, donc j'espère que vous vous trompez.
Un expert, non. J'ai joué.
Bon, pronostic.
2-0 pour la France.
Ah, bah quand même. Bon, bah alors tout va bien.
J'ai dit 2-0, mais j'hésite encore pour voir si les Allemands marquent pas, parce qu'en général, les Allemands marquent toujours.
Bah merci, Jordan. C'est l'heure du débrief. Il est 14h23.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Allemagne-France ce soir pour le premier match des Bleus à l'Euro. Jingle allemand, s'il vous plaît, Greg Caranoni.
Le débrief.
Et cette question qui vous a agité au 32-10 sur nos réseaux sociaux, soutenez-vous l'intention des Bleus de mettre un genou à terre ce soir avant le début de la rencontre, un signe de protestation contre les discriminations, mais un geste qui énerve Laurent.
Il y en a marre de ces faiseurs de leçons, de ces gens, de ces footballeurs qui gagnent des millions et qui sont là pour donner une morale aux gens. Mais c'est leur monde, ils sont dans leur monde, un animateur de télévision, un comédien, il y en a marre de ces gens-là. Moi, je suis à bout et je pense que la France est à bout de ça. Ce soir, je supporterai la Mannschaft.
Poser le genou à terre, Franck applaudit cette initiative des Bleus.
C'est des joueurs, ils ont décidé entre eux. On le fait bien en Italie, on le fait bien en Espagne, on le fait bien là. Pourquoi la France n'aurait pas le droit de le faire ? Alors, va falloir m'expliquer et en plus, le racisme, on en a un peu marre. Mais la personne qui est décédée aux États-Unis, elle était comment ? Elle n'était pas à terre ?
Et où allez-vous voir le match ce soir chez des amis au restaurant ? Avec qui, Franck ? Dites-nous tout.
J'aurai ma femme avec moi et peut-être mon voisin à côté aussi.
Le voisin va venir.
Bénédicte nous a appelé d'Allemagne, de Düsseldorf. Son mari est allemand. Imaginez l'ambiance à la maison ce soir.
Bah, c'est toujours ou dans un sens ou dans un autre. C'est souvent une des deux meilleures équipes, une des équipes qui est meilleure que l'autre. Mmh. Donc là, mon mari est pour l'Allemagne, moi pour la France. Et Raphaël, mon fils de 12 ans, lui m'a dit, de toute façon, moi je gagne. Oui. Que ce soit la France ou l'Allemagne, pour lui c'est bien.
Et on imagine un peu de chanson allemande, Greg Caranoni, pour se chauffer avant le match. Mireille Mathieu, vous aimez Marie ?
J'entendais Mireille Mathieu et je croyais que c'était du japonais. Voilà.
Allez, au milieu de l'émission, Pascal se prend une petite pause, tranquille. Qu'on est les meilleurs, qu'on fait peur, qu'on a une attaque de feu, attention tout de même. Cher Pascal.
Oui Laurent.
L'Allemagne vous perturbe.
Mais non, j'ai...
Bonne nuit petit Pascal. Et ce que l'on adore avant chaque match, c'est le petit jeu des pronostics. Allez, lancez-vous Pascal.
Si je voulais faire un pronostic, je pourrais imaginer que les deux équipes sont capables de se neutraliser. et je pourrais imaginer un match nul, un but partout.
Très bien. Et si vous vous trompez ce soir, que comptez-vous nous offrir ?
Moi, je vous parie ma chemise.
Encore ? Décidément, vous aimez enlever le haut. Marius Trésor, ancien défenseur emblématique de l'équipe de France, s'est lancé aussi dans le petit jeu.
2-0 pour la France.
Et c'est bien noté. Allez, un petit message Kylian Mbappé avant ce soir.
Enfin, on veut gagner. On veut gagner.
Ah oui, Noël Legret, président de la Fédération Française de Football, un dernier mot ?
Allez, on peut gagner.
Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Y a
ah, on peut gagner. Oui, c'est la fête. Et pour bien s'échauffer, une chanson Greg Carnoni.
Oh, les champions !
Et non, Greg, ça nous rappelle 2002 et la rapide élimination en Coupe du Monde. Non, quittons-nous avec un message de Ricky Martin qui date d'une certaine année 1998.
Johnny Hallyday aurait eu 78 ans aujourd'hui, mais Flavie Flamand qui est là et qui vient d'entrer dans ce studio doit se rappeler de cette chanson de Johnny Hallyday parce qu'en 2002, elle présentait une émission Tous en finale sur TF1. Tous ensemble, c'était pas tous en finale. Donc tous ensemble et avec Jean-Pierre Pernaut, c'était un access prime time entre 18h et 20h, imaginé par TF1 et piloté à l'époque par Étienne Bougeotte. Et effectivement, dès le premier tour, on est rentré à la maison. Donc après, il a fallu sortir les rames jusqu'à la finale de la Coupe du Monde, puisque la France n'était pas là. Mais Flavie s'en était magnifiquement sortie, bien évidemment. Et c'est là qu'on se voyait tous les soirs, puisqu'on faisait l'émission. Moi, je commentais que les matchs et Flavie présentait l'émission avec Jean-Pierre Pernaut. C'était il y a quasiment 20 ans, figurez-vous.
Vous avez porté chance, hein.
À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur